Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel, il est midi et demi ici à Paris.
RFI midi. Anne Contner.
RFI midi, 2 heures ensemble avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux pour faire le tour de l'actualité dans le monde. Actualité marquée aujourd'hui encore par Donald Trump et l'avalanche de décisions annoncées hier. À commencer par la politique migratoire, comme il l'avait promis pendant toute sa campagne. La frontière mexicaine est fermée et le programme qui permettait aux migrants de prendre rendez-vous pour une demande d'asile est suspendu.
On a tant lutté pour arriver là. Il faut attendre encore pour voir. Ma sœur veut rentrer. Elle fatigue de tout ce qu'on a enduré pour arriver ici. Pour rien.
Reportage de notre envoyé spécial à la frontière mexicaine à écouter à partir de 13h, temps universel. Nous appellerons aussi notre reporter à Los Angeles qui a rencontré des travailleurs immigrés. Et nous serons en ligne avec un confrère en Haïti car Donald Trump a également mis fin à un système qui offrait un asile temporaire à de très nombreux Haïtiens. Autre annonce choc, même si elle était également attendue, c'est le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Quelles conséquences, quel avenir pour la protection de l'environnement et pour la lutte contre le dérèglement climatique? Nous poserons la question à notre invité dans 3 quarts d'heure. Au sommaire également, les affirmations de Saïf al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien dirigeant libyen. Il répète sur notre antenne qu'il a bien versé de l'argent à Nicolas Sarkozy pendant sa campagne présidentielle en France de 2007. L'ancien président est d'ailleurs jugé en ce moment dans cette affaire et on en parlera dans Afrique Midi à midi et demi, temps universel. Avant cela, on va parler de l'actualité en Europe et nous entendrons dans quelques minutes le maire de Dnipro, ville stratégique de l'est de l'Ukraine. Voilà pour le programme. Bienvenue. Vous l'avez peut-être entendu en direct sur notre antenne, Donald Trump, parmi ses très nombreuses annonces hier, a parlé de l'énergie, des réserves immenses des États-Unis et de son intention d'en profiter.
Je vais également déclarer une urgence énergétique nationale. Nous allons forer encore et encore.
Drill, baby, drill.
Nous avons la plus grande réserve de gaz et de pétrole au monde et nous allons l'utiliser.
Forer pour le pétrole et pour le gaz, donc. On parlera tout à l'heure des conséquences que cela pourrait avoir sur le climat. Et pour l'heure, on va voir ce que cela pourrait avoir comme conséquence pour l'Europe, pour un continent qui a du mal à s'approvisionner. Un surplus de gaz américain, ça pourrait signifier des prix plus bas. Mais ça n'est pas aussi simple que cela. Agnieszka Kumor, et la question de la dépendance de l'Europe est dans de nombreux esprits.
Acheter plus de gaz aux Américains permettrait de rompre définitivement avec le gaz russe. Actuellement, ce dernier représente 15% du total des importations de gaz de l'UE. La présidente de la Commission européenne y est favorable. Cela permettrait de faire baisser les prix de l'énergie. Vous l'avez dit, en Europe, problème, ce n'est pas l'exécutif européen qui achète du GNL sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié. Ce sont les acheteurs privés qui font leurs propres contrats et qui fixent les prix. Les entreprises américaines pourraient produire plus, mais elles préfèrent se concentrer sur la rentabilité de ce qu'elles produisent déjà, car de nouvelles extractions coûtent cher. Et puis, les États-Unis sont déjà le deuxième partenaire gazier de l'UE, après le Norvège, et son principal fournisseur de gaz naturel liquéfié. Depuis le début de l'année, l'UE a acheté plus de la moitié de son GNL aux États-Unis. En attendant, certains experts alertent, il ne faudrait pas dépendre des États-Unis comme c'était le cas avant avec la Russie.
Agnieszka Kumor, l'une des autres questions pour les Européens, ce sont les droits de douane que Donald Trump menace d'augmenter de manière considérable. Il en sera certainement question au sommet de Davos qui commence aujourd'hui en Suisse. Sont présents notamment la présidente de la Commission européenne, le vice-premier ministre chinois, en attendant une prise de parole par visioconférence de Donald Trump jeudi. Volodymyr Zelensky, lui aussi, a fait le déplacement en Suisse. Il s'exprimera cet après-midi afin de demander davantage de soutien encore pour son pays. L'armée ukrainienne annonce aujourd'hui avoir frappé un dépôt pétrolier et une usine aéronautique dans la région russe d'Orenbourg, loin de la frontière ukrainienne. Orenbourg se trouve à côté du Kazakhstan, mais l'armée ukrainienne est aussi toujours en grande difficulté dans l'Est, sur son sol. Et je vous propose d'écouter maintenant un entretien avec le maire de Dnipro, Boris Filatov. Au micro de nos envoyés spéciaux, il revient sur le côté stratégique de sa ville, située à une centaine de kilomètres du front seulement, et qui sert de point central à la fois pour l'approvisionnement de l'armée et pour l'accueil des déplacés et des blessés.
Ну, по-перше, перша проблема – це житло. Le logement pour les déplacés est notre principal problème. Nous n'avons pas assez de logements. La municipalité n'a pas les moyens de leur trouver un toit. Mais nous essayons de leur fournir tous les autres types de soutien, comme l'aide médicale et la recherche d'emploi. On essaie de faire tout ça.
Est-ce que vous craignez que l'armée russe se rapproche encore de Dnipro?
Je ne veux pas commenter la situation militaire car je suis un élu. Mais à mon avis, l'idée principale des Russes dans cette direction, c'est de traverser la frontière de la région simplement pour montrer que la guerre s'est déjà étendue aux 6 régions de l'Ukraine. Mais ils ne pourront pas franchir le Dniepr, j'en suis sûr, car nous sommes bien préparés.
Vous pensez que Donald Trump pourrait négocier un cessez-le-feu aux conditions de Vladimir Poutine?
Oui, bien sûr, nous avons peur. Et je ne peux qu'être d'accord avec le président Zelensky. Il n'est pas possible de négocier avec la Russie aux dépens du peuple et des territoires ukrainiens. Mettez-vous à la place des Ukrainiens qui vivent encore dans les territoires occupés ou qui s'enfuient. Ils ont tout perdu de leur vie d'avant. Conclure un accord avec la Russie à leurs dépens serait vraiment immoral.
Tous les Ukrainiens qu'on a rencontrés, ils veulent tous la fin de la guerre. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous dites « Stop, il faut arrêter cette guerre aujourd'hui » ?
Bien sûr que je suis fatigué, car j'ai beaucoup de problèmes personnels, comme tous les Ukrainiens. Certains de mes amis sont morts, ma sœur a dû être évacuée de Pokrovsk, et j'ai dû l'emmener à Dnipro, donc je suis fatigué, c'est sûr. Mais j'ai aussi la responsabilité d'une ville d'un million d'habitants. J'ai des problèmes liés à cela. C'est pourquoi je suis 10 fois plus fatigué. Tout le monde à l'étranger et en Ukraine est déjà fatigué de cette guerre. C'est un sujet qui dure depuis 3 ans déjà et je ne comprends toujours pas quelle était la raison de cette guerre, sauf l'ambition malsaine de Poutine.
Donald Trump veut prendre ses distances avec l'Ukraine. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne va pouvoir vous soutenir suffisamment?
Sans les États-Unis, ce sera très difficile. On manque déjà d'armes. L'Union européenne a été désarmée au cours des dernières décennies, après la fin de la guerre froide. Et maintenant, pour eux, il sera très difficile de recommencer à construire et à produire. Donc sans les Américains, ce sera vraiment très difficile de résister face à l'armée russe.
Розробки всього військового обладнання, там артилерійських боєприпасів. Тому для нас це буде дуже скрутне становище.
Le maire de Dnipro au micro de nos envoyés spéciaux Julien Chavanne, Boris Vechit et Glib Yegorov. La guerre en Ukraine évoquée hier par Donald Trump, il a appelé Vladimir Poutine à trouver un accord de paix, une paix durable, a dit le nouveau président américain et il a ajouté « Je crois qu'il est en train de détruire la Russie en ne trouvant pas un règlement ». Donald Trump qui menace la Russie, donc, c'est ce que souligne ce matin le journal polonais Wyborcza, mais qui maintient quand même, rappelle le quotidien, son intention de discuter avec le président russe. À lire aussi dans quasiment toute la presse européenne, ce geste d'Elon Musk hier lors de l'investiture du nouveau président américain, geste qui s'apparente à un salut nazi, titre The Independent. Il a frappé sa poitrine avant de tendre le bras, la main ouverte, et il l'a fait 2 fois. Salut nazi ou geste maladroit, Elon Musk sème le trouble, souligne Le Soir en Belgique, alors que le journal grec Ethnos se dit choqué. Pour le Guardian, la journée d'investiture de Donald Trump a donné le signal du battement de tambour de l'extrême droite qui balaie les démocraties occidentales. Il y a cependant des moyens d'éviter une prise de pouvoir de l'extrême droite au Royaume-Uni, estime le journal, citant par exemple le travail des maires au niveau des communes ou encore l'instauration d'un système de vote proportionnel au Parlement. Keir Starmer, ajoute The Guardian, ne devrait pas être arrogant et savoir que l'électorat qui lui a donné sa large majorité il y a quelques mois est extrêmement volatile et méfiant. Si Starmer souhaite sincèrement faire passer le pays avant le parti, ajoute The Guardian, alors il devrait mettre en place une commission sur le déficit démocratique. Voilà la recommandation du quotidien britannique de centre-gauche. Keir Starmer qui promet aujourd'hui une enquête publique sur la mort de 3 enfants, 3 fillettes, tuées lors d'une attaque au couteau près de Liverpool. Cela s'était produit juste après son arrivée au pouvoir en juillet dernier. Cela avait choqué tout le pays. Le suspect est jugé cette semaine, il devrait être condamné jeudi, mais les audiences ont fait émerger des informations nouvelles qui suscitent des questions et des critiques. Le jeune homme était connu des services antiterroristes, Emeline Vin.
Keir Starmer le reconnaît et les autorités ont échoué à protéger les Britanniques de la violence de l'assaillant de Southport.
L'assaillant a été signalé à 3 reprises au service antiterrorisme. À chaque fois, ils ont jugé qu'il ne remplissait pas les critères pour justifier une intervention. Ce jugement était clairement erroné.
Une enquête publique, un mécanisme indépendant sans pouvoir judiciaire mais qui peut contraindre tout citoyen à témoigner, est lancé pour tirer les leçons de cet échec et prévenir la prolifération de théories du complot.
S'il existe le moindre empêchement à la protection des citoyens et des enfants de ce pays, je le détruirai.
Depuis juillet, le Premier ministre connaissait ces éléments, les signalements, l'inaction judiciaire, mais dément tout camouflage de la vérité.
Oui, on m'a tenu informé. Mais si le procès avait été invalidé pour vice de procédure par ma faute, si j'avais révélé ces détails, alors cet individu abject serait aujourd'hui libre et toute perspective de justice pour les familles aurait été détruite.
Keir Starmer pourrait également réformer la définition légale du terrorisme pour inclure les individus motivés par la violence extrême. Emeline Vin, Londres, RFI.
À Londres, il est 11h41.
RFI Midi.
Reportage maintenant en Espagne où le changement climatique menace toute une partie du pays, à commencer par le Pays Basque qui pourrait perdre quasiment un tiers de son littoral d'ici à 2050. Alors sur place, on essaie d'anticiper. La ville de Zarautz, par exemple, a mis en place un projet pour freiner l'érosion et pour limiter le risque de submersion. Et notre correspondante, Diane Cambon, s'est rendue sur place. Voici son reportage.
Chaque hiver, les tempêtes frappent toujours plus fort sur la grande plage de Zarautz, connue pour être un spot de surfeurs au Pays Basque espagnol. Des vagues qui peuvent atteindre 1 mètre de haut et qui se déchaînent contre les devantures des boutiques, inondent les bars de la promenade maritime et dévalent même dans les rues adjacentes. Photo à l'appui, le maire de Zarautz, Javier Churruca, montre sur son portable les effets de la dernière tempête.
On a vu la vague atteindre le premier étage de cet immeuble-là. Ici, tous les restaurateurs et hôteliers sont habitués. Ils ont des planches qu'ils placent devant les fenêtres et les portes pour se protéger.
Cette bourgade de 23 000 habitants, 40 000 durant les mois d'été, est particulièrement touchée par la montée des eaux de la mer Cantabrique. Adolfo Riarte, directeur du patrimoine national et de l'adaptation au changement climatique au Pays Basque, étudie depuis des années le littoral.
Entre 2021 et 2024, nous avons fait un étude.
Entre 2021 et 2024, on a mené une étude sur les effets du changement climatique sur notre côte, le niveau de la mer durant les grandes tempêtes, et nous avons détecté des points noirs particulièrement menacés sur notre littoral, et Zarautz en est un, non seulement pour sa plage, mais aussi pour sa vulnérabilité urbaine. Les maisons sont construites très proches de la plage.
Pour cet ingénieur, il y a urgence à agir. Si on veut maintenir l'actuelle plage et protéger les 2 km du front de mer où ont été construits dans les années 70 des immeubles de 4 étages.
On sait qu'en 2050, on va perdre 30% de plage si on ne fait rien. Les gens pensent que c'est dommage car ils vont avoir moins d'espace pour pouvoir étendre leurs serviettes. Mais ce n'est pas cela le principal problème. La plage de sable est la principale défense pour éviter les inondations. C'est une digue de protection naturelle, mais comme elle est mobile, il faut la protéger. On pense que 3 à 4 mm par an en moins de sable, ce n'est rien. Mais en 3 ans, cela fait 1 cm. Pensez que la plage a un dénivelé de 1%. C'est facile à comprendre. Si la montée des eaux est d'un centimètre, cela veut dire 1 mètre de perdu.
Face à l'urgence et afin d'anticiper la disparition du sable, le maire de Zarautz s'est proposé pour accueillir un projet pilote, évalué à 1,5 million d'euros, financé à 60% par l'Union européenne. Le maire, Javier Churruca, prend à cœur ce vaste chantier qui devra commencer cette année.
Là où nous sommes, c'est l'endroit où on va faire les premiers travaux. Durant des années, on a étudié, grâce aux caméras posées tout au long du front de mer, comment évolue la plage, l'impact des marées qui montent et descendent, comment la mer emporte le sable et le transporte. Et on est arrivé à la conclusion que si l'on veut maintenir la plage et le sable comme protection de la montée des eaux pour éviter que les vagues frappent et envahissent les zones urbaines, eh bien, ces escaliers qui descendent sur la plage que l'on voit ici, il faut les détruire, les retirer, car ils participent à la disparition du sable, car les vagues forment un tourbillon et emportent le sable.
Contenir les vagues lors des grandes tempêtes est l'objectif de ce chantier. Le long de la promenade maritime, sur 150 mètres, une digue va être construite également là où les vagues se déchaînent le plus.
L'autre chantier consiste à élever de 50 cm le mur qui sépare la plage du niveau de la promenade maritime. On va placer des botas aguas, ces boucliers en forme de courbe qui renvoient les vagues vers le large et évitent ainsi qu'elles ne dévalent dans la zone urbaine. Pour nous, se retrouver sans plage, ce serait un drame, car c'est le plus grand trésor de Zarautz.
Or, ces grands travaux laissent sceptiques certains résidents de Zarautz, comme ce restaurateur qui tient un bar sur le front de mer, dans la zone la plus touchée par les submersions marines.
Pour moi, c'est de la foutaise tout cela. Il y a toujours eu des grandes marées. C'est beau et cela fait un peu peur aussi. On est inondé, on se protège et puis voilà, cela a lieu tous les 10 ou 15 ans. Cela ne sert à rien de nous mettre encore plus de béton ici. Il faut laisser vivre la mer. Et si cela arrive dans 30 ou 40 ans, eh bien à ce moment-là, il faudra agir comme à Venise, mais pas maintenant. Ce projet va seulement servir à dépenser de l'argent et ce mur de protection, on va le recevoir sur nous quand les vagues seront folles.
Même Adolfo Uriarte, directeur du patrimoine national, ne cache pas ses doutes.
Oui, ce sont des rustines, car si le niveau de la mer continue à monter comme on le prévoit, entre 80 cm et 1 mètre, eh bien cela ne va pas servir à grand-chose. Mais au moins d'ici 2050, cela devrait permettre de contenir la hausse des eaux à cet endroit-là. On ne sait pas ce qui va se passer, et c'est pour cela que l'on ne peut pas aujourd'hui construire de murs très élevés. Toutefois, je reconnais être assez pessimiste sur l'avenir.
En fonction des résultats, la ville de Zarautz pourrait faire des émules sur la côte basque.
Un reportage de notre correspondante Diane Cambon à réécouter ce soir dans l'émission Accent d'Europe à partir de 19h10, temps universel. En Espagne, toujours trois ministres, dont la ministre du Travail numéro 3 du gouvernement du socialiste Pedro Sanchez, annoncent leur départ du réseau social X, l'entreprise d'Elon Musk, qualifiée par cette ministre d'outil de propagande, sans place pour le débat. Vendredi dernier, déjà plusieurs associations écologistes espagnoles, dont Greenpeace ou encore la conférence des recteurs des universités espagnoles, qui regroupe les responsables des établissements de l'enseignement supérieur, avaient déjà annoncé leur départ de X.
RFI Midi. Un monde de tech.
Pour parler des réseaux sociaux, encore Dominique Dezonnet, bonjour.
Bonjour Anne.
Et d'une information à prendre avec des pincettes au regard de ce qu'est X et des dernières déclarations de Mark Zuckerberg, les grands réseaux sociaux américains assurent qu'ils s'engagent contre la haine en ligne, du moins dans l'Union européenne. La Commission a indiqué hier qu'ils avaient adhéré au principe d'un code de conduite renforcé. On a un peu de mal à y croire, d'autant plus que les patrons de ces groupes ont beaucoup, beaucoup protesté contre les règles numériques européennes.
Oui, alors même que le patron de Meta avait pourtant repris récemment les critiques formulées par Elon Musk contre une supposée censure des réseaux sociaux dans l'UE. Cette annonce est vraiment surprenante, l'annonce de la Commission qui est intervenue le jour du retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Eh bien, les patrons de l'industrie des technologies aux États-Unis donnent ainsi dégage de bonne conduite à Bruxelles en promettant de modérer au mieux les messages de haine qui pullulent sur leurs réseaux sociaux. Ce code des bonnes pratiques, initié en 2016, concerne la modération et la suppression des messages visant des personnes en raison de leur origine, leur religion ou leur orientation sexuelle. L'adhésion à ce principe de vigilance était basée à l'époque sur le bon vouloir des plateformes sociales. Mais Clara Chapaz, la ministre déléguée en France chargée de l'intelligence artificielle, artificielle et du numérique, a rencontré ce lundi les représentants des plateformes sociales Google, YouTube, X, Meta, Microsoft et TikTok pour leur rappeler leur obligation de respecter aussi les règlements sur le numérique en vigueur dans l'UE et notamment celui du DSA qui contraint les très grandes plateformes à évaluer elles-mêmes les risques de leurs services et les atténuer, a expliqué la ministre au micro de Sophie Malibaud du service InfoVérif de RFI.
La réunion a porté en particulier sur les pratiques de modération de ces plateformes. Je pense que le message qui a été le nôtre, c'est de dire qu'on sera ferme et juste et qu'on veut continuer à être dans une démarche de bonne collaboration avec les plateformes. Aujourd'hui, elles étaient toutes présentes. Elles ont bien sûr la volonté d'opérer en Europe dans le cadre de la réglementation qui est la nôtre. D'ailleurs, une grande partie de ces plateformes ont collaboré aux réflexions qui a lieu sur la sécurisation de notre espace numérique. Je pense qu'il ne faut absolument pas rentrer dans une logique d'affrontement. On est en Europe. Pour opérer en Europe, il y a des règles. Ces règles, elles sont connues des plateformes et ces plateformes, elles les appliqueront.
En quoi consistent ces règles, Dominique? Qu'est-ce qu'il contient, ce code de bonne conduite renforcé?
Alors, dans le détail, les réseaux sociaux s'engagent à faire tout leur possible pour examiner au moins 2/3 des contenus problématiques signalés par les utilisateurs dans un délai de 24 heures, a expliqué la Commission européenne. Ils promettent aussi de respecter des engagements de transparence spécifiques concernant leurs mesures pour réduire la prévalence des discours de haine sur leurs services, y compris au moyen d'outils de détection automatique. En revanche, ce code de conduite renforcée se distingue d'un autre code, le code européen des bonnes pratiques contre la désinformation. Une autre démarche qui revêt un caractère également volontaire pour ses signataires, qui sera, elle aussi, intégrée au DSA dans les prochains mois.
Merci Dominique Dezonnet. Un mot encore de l'actualité européenne et de cette réaction à l'une des très nombreuses annonces de Donald Trump hier. L'Union européenne dit voir avec inquiétude l'annonce de retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Bruxelles espère que le nouveau président américain reconsidérera sa décision. Voilà ce que dit une porte-parole de la Commission. Notre rencontre avec une personnalité du monde de la culture. On parle théâtre, mais pas seulement, car le spectacle de Gabriel Sparti se penche sur la géopolitique de la Suisse, pays dit neutre. La question est au cœur de la pièce Heimweh du jeune metteur en scène. Cela signifie le mal du pays en allemand et c'est l'occasion pour lui de mettre en avant des personnages enchaînant les banalités au point d'être saisi d'un effroi qui frôle le ridicule à chaque fois qu'il leur faut prendre position sur quoi que ce soit. Gabriel Sparti est au micro de Muriel Malouf.
Gabriel Sparti, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes Suisse et vous avez choisi de représenter votre pays dans une forme de satire. Hein. Oui. Comment c'est parti, ce spectacle?
Je voulais travailler un peu sur l'histoire de mon pays et de la politique de mon pays et voir, un peu fouiller ça. Et petit à petit, en fait, est venue certaines scènes qui, il s'avère, étaient drôles.
Alors, le rire arrive à cause de la situation des acteurs, en fait. Mmh. Ils sont 4, mmh. Ils sont sur scène extrêmement gênés, mal à l'aise, mais avec un sourire tout le temps, un peu crispé, une certaine gentillesse, une difficulté un peu à exister, presque à vivre. On dirait presque des momies, quoi. Mmh. Qu'est-ce que ça symbolise, hein, cette extrême gentillesse, quelque part sans vouloir jamais se mouiller?
Pour moi, c'était trop un moyen de trouver une situation théâtrale et un rapport à l'enjeu du personnage qui est en résonance avec des signes politiques du pays précisément, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer quand un Suisse rentre sur un plateau? Qu'est-ce que ça crée, un vrai Suisse? Et du coup, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. C'est-à-dire, je veux me montrer avec une façade propre. Je veux me montrer en tant que bon être humain. Et en même temps, j'ai une extrême peur d'être découvert tel que je suis vraiment. Donc, il y a cette peur-là qui joue en même temps avec la façade. Et là, du coup, face à un public, il y a être impressionné par le public. Et il y a vouloir plaire au public en même temps. Mais du coup, ces différentes tensions-là, elles amènent une sorte d'immobilité, quoi, pour moi. Et du coup, une impasse. Il y a un endroit là qui est dénoncé. Après, alors, à qui ça profite toute cette armature idéologique, sociale, qui tient dans l'illusion d'une démocratie, c'est aux grands tenanciers, bon, de nouveau, là, c'est là où ça va être peut-être un peu cliché, mais aux grands tenanciers et à ceux qui profitent du statu quo européen, donc qui sont les grandes fortunes et de plus en plus aussi l'extrême droite qui monte.
Il y a cette phrase qui est très drôle au milieu de la pièce, hein, la Suisse, c'est mourir au grand air. Il y a aussi la question du paysage qui est très importante.
Et ben là, donc il y a cette phrase qu'on a entendue à Genève, qui est de Thomas Bernhard et qui dit « Les beaux paysages effritent le cerveau ». Il y a quelque chose de ça, quoi. Le rapport au paysage, c'est tout sauf anodin, quoi. C'est pas rien d'être hypnotisé chaque jour face à la beauté d'un paysage qui finit par nous suffire, quoi. Et qui finit par même nous bloquer la vue d'autres choses. Quand je reviens en Suisse, à chaque fois que j'en pars, j'ai une sorte de nostalgie ou de mélancolie, justement, de cet endroit que j'ai rejeté. Je pense qu'il y a un endroit vraiment, vraiment puissant à cet endroit-là, sur les paysages, le cadre esthétique dans lequel on se situe, et donc mourir au grand air, oui. Enfin, si on se laisse aller à cette facilité-là, la chose qu'on peut raconter de notre vie, c'est finalement, je suis mort au grand air.
Parce que la Suisse anesthésie.
Je sais que maintenant, en étant dans un autre cadre, je sais que j'ai vécu dans un cadre où l'apolitisme était une politique, quoi. Alors ça ne se place jamais quelque part, et donc on peut jamais être en réaction à quelque chose. Enfin bref, mais ça c'est vraiment dans le développement et ma région. C'est sûrement lié à ma région aussi, hein, mais qu'est la Riviera, du coup. La Riviera et le canton de Vaud. Et donc cette distance-là a permis d'avoir une vue, disons. Ça c'est sûr. Ouais. Voilà.
Merci beaucoup, Gabriel Sparti.
Merci à vous.
Gabriel Sparti, metteur en scène suisse, au micro de Muriel Malouf. 12h56 ici à Paris. Dans 4 minutes, un nouveau journal, toute l'actualité internationale. Puis nous parlerons avec notre invité de la décision de Donald Trump de quitter pour la deuxième fois l'accord de Paris sur le climat. Et puis à midi et demi, temps universel, l'actualité africaine. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner.
Et vous nous parlerez tout à l'heure.
Le ressortissant espagnol enlevé la semaine dernière dans le sud de l'Algérie est libre. Ce sont les rebelles du FLA, le Front de libération de l'Azawad, actif dans le nord du Mali, qui l'affirme. Ils assurent avoir eux-mêmes œuvré pour cette libération. Et puis au Bénin, un coup de théâtre ce matin à l'ouverture du procès d'Olivier Bocco à Cotonou. L'homme d'affaires est accusé avec 5 autres personnes de complot contre l'autorité de l'État. Mais tous les avocats des prévenus se sont retirés de l'audience. Ils contestent la composition de la cour.
Nicolas Sûr, on vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure. Et pour l'heure, un peu de musique. Voici le titre Hard à écouter en ce moment dans la playlist RFI signée du groupe Vendredi sur Mer avec l'américain Aniel Khatib.
Ouais, c'était hard. Et pour finir, je m'en fous, je t'en veux pas. Oh non, ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal. C'est mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal. Fais-le en vrai, ouais, bébé. Ouais, c'était hard. Et pour finir, je m'en fous, je t'en veux pas. Oh non, ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. J'espère quand même pour toi que tout finira mal. Ça faisait mal sur le coup, mais c'est normal. They don't feel like it. Shut us on my vibe. Take a minute then we breathe like some space then we do right. I don't know what this has become. Yeah, but all these feelings got me on the run. Hey, did it to myself. You know how my mind is inside. Huh. Anything to keep it locked up.
Blade du groupe Vendredi sur mer en duo avec l'américain Aniel Khatib. C'est à écouter en ce moment dans la playlist RFI. Vous savez aussi, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre application RFI Pure Radio.